Dans le Midwest américain, un vendeur de drogue en cavale est prêt à tout pour éviter d'être capturé. Sa course effrénée est nourrie par sa consommation de drogue et ponctuée de fusillades. Il traverse deux États américains à toute vitesse. Les autorités locales et fédérales sont résolues à riposter à sa violence et à le poursuivre coûte que coûte. Le 2 février 2000, sur les routes paisibles de Lincoln County au Nebraska, le policier Stan McKnight effectuait sa patrouille comme d'habitude quand il aperçut dans son rétroviseur un véhicule s'approcher rapidement. Le pick-up marron le doubla. McKnight remarqua que le véhicule était immatriculé au Texas, mais il n'eut pas le temps de voir le numéro de la plaque. Il se mit à sa poursuite tout en jouant de prudence. À cause de la température des derniers jours, la route était recouverte de plaques de verglas. Sans l'éclairage des rues, tout semblait normal, mais les routes étaient très dangereuses. L'agent McKnight appela des renforts. Plusieurs unités de patrouille de l'État se mobilisèrent pour tenter d'intercepter la camionnette. Son conducteur ne semblait guère se soucier du danger. Comme il n'y avait pas d'autres voitures sur les routes et que, par conséquent, personne ne courait de risque, McKnight décida qu'il n'en valait pas la peine d'accélérer pour rattraper le pick-up.
Le conducteur semblait bien connaître le secteur. Comme il prenait beaucoup de risques et conduisait plus vite que moi, il m'a rapidement semé.
Le pick-up disparut dans la nuit. Une semaine plus tard, à 60 km de là, à North Platte, des policiers répondirent à l'appel d'un fermier. Celui-ci n'avait pas utilisé sa grange depuis plusieurs années et avait donc été surpris de constater que quelqu'un y était entré et avait laissé derrière lui un bien étrange atelier. Les policiers étaient déjà familiers avec l'ensemble des produits qu'ils y trouvèrent. Il s'agissait des ingrédients nécessaires à la fabrication de méthamphétamine, une drogue illégale. Ce puissant stimulant est communément appelé cristal ou speed. Il est facile d'en fabriquer avec des produits d'usage courant. Depuis quelques années, le Midwest américain est devenu un centre de production massive de méthamphétamine, comme en témoigne le caporal Casey Names du bureau du shérif de Lincoln County.
Les laboratoires de méthamphétamine posent un réel problème, parce que nous sommes situés dans un secteur rural. Il y a ici beaucoup de fermes abandonnées où plus personne ne vit. Cela fournit ainsi à ces individus l'occasion de s'installer là et d'y fabriquer cette drogue presque à l'insu de tous.
Cette drogue illégale crée une forte dépendance et elle est extrêmement dangereuse. Ses utilisateurs planent pendant un moment, puis ils deviennent paranoïaques et ressentent un besoin impératif de recommencer. La plupart d'entre eux deviennent agressifs et posent des gestes désespérés. Là où surgissent des laboratoires de méthamphétamine, on note toujours une recrudescence de crimes violents. Au cours de leur fouille du laboratoire clandestin de la grange à North Platte, les policiers trouvèrent de nombreuses lettres, toutes à l'attention d'un certain Charles Moses Jr. de Nocona, au Texas. On contacta les autorités de cet État pour leur demander des informations sur ce Moses. Celles-ci leur envoyèrent des photos du suspect et les informèrent qu'il était recherché suite à un vol d'armes à feu. Les enquêteurs du Nebraska apprirent également que Moses conduisait un pick-up de couleur marron immatriculé au Texas. La marque et le modèle de cette camionnette correspondaient à la description du véhicule qui avait semé le policier McKnight à peine une semaine plus tôt. Si Charles Moses était fabricant de méthamphétamine, il y avait fort à parier qu'il en était également un consommateur. Cela pouvait expliquer pourquoi il conduisait avec autant de témérité le soir de la poursuite.
Les consommateurs de cette drogue deviennent paranoïaques et ils ne ressentent plus aucune douleur. Parfois, ils ne dorment pas plusieurs jours d'affilée. C'est alors difficile de les arrêter.
Au cours de leur patrouille au sein de cette petite population, les policiers montrèrent la photo de Moses et demandèrent à tous s'ils avaient vu un inconnu qui lui ressemblait. Certains résidents déclarèrent l'avoir déjà vu. Mais personne ne l'avait vu depuis plusieurs jours et Moses n'avait pas de lieu de résidence connu dans la région. À 23h le 12 février 2000, soit une semaine après la découverte du laboratoire de méthamphétamine, le caporal Casey Names de Lincoln County s'apprêtait à commencer son quart de travail. Comme d'habitude, il s'arrêta pour commander un café avant de commencer sa patrouille. Mais ce soir-là, rien d'autre ne se déroulerait comme d'habitude. Par la fenêtre, Names aperçut un véhicule qui correspondait à la description du pick-up de Charles Moses. Il espérait bien voir le visage de son conducteur.
Quand il est descendu du pick-up, j'ai constaté qu'il ressemblait à l'homme que nous recherchions.
La camionnette était immatriculée au Texas. Names s'apprêtait à demander à l'homme des cartes d'identité, mais c'est ce dernier qui lui adressa d'abord la parole.
Je me suis approché de lui et je lui ai demandé de s'identifier et de me dire où il allait et ce qu'il faisait. Je lui ai ensuite demandé de me montrer une carte d'identité et le nom inscrit sur le permis de conduire était Charles Moses. Je pensais bien, après ce premier contact avec lui, que je pourrais le faire descendre de son pick-up sans problème et ensuite procéder à son arrestation. Mais c'était un homme d'une force impressionnante et je n'ai rien pu faire d'autre que de me battre pour tenter de l'empêcher de me braquer son arme au visage.
Moses fit feu.
J'étais sûr d'avoir atteint la cible à deux reprises. J'ai vu les deuxième et troisième projectiles atteindre l'arrière de la cabine du pick-up.
Names tenta de poursuivre Moses, mais le fugitif conduisait avec la témérité de quelqu'un qui a consommé des méthamphétamines et qui ne craint rien. Il le sema. Les policiers de la patrouille du Nebraska entendirent sur leur radio qu'il y avait eu un échange de coups de feu. Ils se joignirent aux recherches. Le policier Stan McKnight de Lincoln County, qui avait déjà poursuivi le pick-up marron, était du nombre. Il voulait prendre position à un endroit où il pourrait intercepter Moses.
Il y a ce secteur que l'on appelle la Correction Line. Je me disais que c'était le meilleur endroit pour l'attendre. Trois routes se croisent là. Je me trouvais sur celle du centre. En plus, je pouvais voir à 3 km à la ronde.
McKnight attendit dans l'obscurité, espérant avoir choisi le bon endroit.
Au bout d'environ 10 ou 15 minutes d'attente, j'ai aperçu un véhicule à l'ouest qui se dirigeait droit vers l'intersection où je me trouvais. Dès que le véhicule est arrivé à ma hauteur, j'ai allumé mes phares et j'ai pu constater que c'était le véhicule que j'avais aperçu moins de 2 semaines plus tôt. Il allait à 120 km à l'heure. Comme il faisait nuit, je n'ai pas pu voir qui était au volant. Il s'est rapidement éloigné de moi.
McKnight tentait de ne pas perdre de vue le véhicule, mais celui-ci disparut de nouveau. McKnight décida alors de s'y prendre autrement.
À ce moment-là, il avait pris beaucoup d'avance sur moi. Je devais ralentir aux allées de maison et aux intersections. Je devais m'assurer qu'il n'avait pas quitté la route principale.
Le policier aperçut alors des feux arrière au loin. Le véhicule était en attente à une intersection. McNagh demanda des renforts. Moses avait déjà fait feu sur un policier. Il était trop dangereux pour que McNagh s'approche de lui. Il attendit l'arrivée de ses collègues. Mais avant qu'il n'arrive, Moses passa à l'attaque. Un projectile atteignit Stan McKnight à la tête et un autre lui déchira la main.
Quand je me suis rendu compte que j'avais été touché, j'ai voulu appeler les policiers pour leur dire ce qui était arrivé. Mais je n'arrivais pas à parler dans le micro. J'avais la bouche pleine de sang et je m'étouffais. À tâtons, j'ai trouvé des serviettes de table en papier sur le siège. Et je me les suis fourrées dans la bouche pour absorber le sang. Je les ai crachées et alors j'ai pu parler et leur dire que j'avais été touché. Que le sujet avait continué sa route, mais que j'allais le poursuivre.
Malgré ses blessures, l'agent McKnight refusait d'abandonner.
Le vent passait par les trous de projectiles de mon pare-brise, projetant des éclats de verre partout. Mon œil gauche était complètement fermé à cause du sang. Quant au droit, il n'arrêtait pas de cligner, mais je pouvais voir suffisamment quand même avec les phares avant de mon auto pour poursuivre mon chemin.
En se fiant aux coordonnées que McKnight avait envoyées par radio, plusieurs équipes de patrouilleurs du Nebraska se rendirent dans le secteur. Ils roulaient avec leurs phares éteints pour que Moses ne se doute pas de leur présence. Deux voitures de patrouille se garèrent sur une route sombre et attendirent. Quelques minutes plus tard, les policiers aperçurent les phares d'un véhicule. C'était Moses. Un des patrouilleurs aperçut une arme. Après avoir vidé sa cartouche de munitions sur Moses, le patrouilleur se rendit compte qu'un projectile avait traversé son gilet pare-balles. Il perdait du sang abondamment. La blessure à sa poitrine semblait grave. Son collègue appela l'hôpital situé à plusieurs dizaines de kilomètres de là pour qu'on envoie une ambulance. Il faisait nuit dans la prairie. Les patrouilleurs espéraient que leur ami survivrait. Dans sa fuite effrénée, Charles Moses avait réussi à atteindre un policier du comté et un patrouilleur. Malgré ses blessures, McKnight, lui, continuait la poursuite de Moses, cet homme qui semblait prêt à tout pour ne pas être capturé. En février 2000, les autorités du Nebraska étaient aux prises avec Charles Moses, un fugitif du Texas, qu'on soupçonnait d'avoir mis en œuvre un laboratoire de méthamphétamine. En fuyant, il avait entraîné les policiers à sa poursuite. Il avait tiré une balle dans la tête d'un policier et atteint un patrouilleur à l'abdomen. Puis, il avait disparu dans la nuit. Des ambulanciers stabilisèrent l'état du patrouilleur blessé avant de le transporter aux urgences les plus proches. Lynn Williams, sergent de la patrouille de l'état du Nebraska, participa à la cueillette des indices sur la scène du crime.
On a restreint l'accès de tout le secteur, car notre but, c'était de recueillir les indices. On a donc pris le pistolet de service du patrouilleur, sa ceinture et des douilles de projectiles qui étaient toujours là. Ensuite, on a pris des photos avec un appareil 35 mm et on a filmé les lieux.
Moses avait fait feu à plusieurs reprises. Un des projectiles avait atteint un signe réfléchissant sur la voiture de patrouille, sans doute la seule chose visible dans cette prairie obscure.
Le projectile avait traversé la portière de la voiture du patrouilleur, puis touché ce dernier à l'abdomen en traversant son gilet pare-balles, et ensuite continué à travers le corps du policier.
Pour que la balle ait traversé tout cela, il fallait que l'arme de Moses fût extrêmement puissante.
Il était évident qu'il était équipé d'une carabine très puissante. L'arme était un fusil d'assaut, quelque chose d'ultra-puissant qui tirait de gros calibres.
La police d'État apporta les douilles de projectiles de la carabine au laboratoire de balistique pour analyse. Les techniciens en évaluèrent la taille et le poids avant d'analyser la composition des métaux. Ils en conclurent qu'il s'agissait de douilles de projectiles d'une arme très puissante, sans doute une 762 SKS, une arme d'assaut de l'armée. Une carabine extrêmement dangereuse, destinée à des militaires entraînés pour cela. Dans les mains d'un criminel, on pouvait craindre le pire. Après ces deux fusillades, le FBI se joignit à l'équipe pour capturer Moses. C'est l'agent spécial Ron Raywalt qui prit l'appel au bureau du FBI de North Platte, d'ordinaire plutôt tranquille.
Dans ce secteur, nous enquêtons principalement sur des crimes de col blanc. Il est très rare qu'on nous appelle pour participer à l'enquête d'un crime violent.
L'agent Raywalt vérifia s'il pouvait faire inculper Moses pour avoir pris la fuite afin d'éviter d'être poursuivi en justice.
Dans ce cas en particulier, on s'est dit qu'il chercherait sûrement à quitter le Nebraska après s'être ainsi défilé au moment de son arrestation. Le FBI pourrait donc intervenir pour le retrouver.
Dans l'espoir de capturer Moses avant qu'il ne fuit le Nebraska, les autorités mirent sur pied un poste de commandement au bureau de la police d'État. Des policiers de presque tous les services s'y échangèrent les renseignements dont ils disposaient sur Moses. Plusieurs d'entre eux avaient eu des contacts avec lui relativement à ses laboratoires clandestins de fabrication de méthamphétamine.
Il avait installé plusieurs de ses laboratoires dans des fermes abandonnées. Il ne faisait pas que fabriquer de la drogue à ces endroits, il y vivait aussi. On savait donc qu'il nous fallait cibler ses propriétés et y effectuer nos recherches.
Des centaines de policiers se mobilisèrent dans tout l'État à la recherche de Charles Moses et de son pick-up marron. Dans cette étendue, il ne serait pas facile à trouver. Les enquêteurs espéraient également que le public aiderait aux recherches. Lors des bulletins de nouvelles, on pressa les habitants de se prémunir contre Moses et d'appeler la police s'ils le voyaient. Dans la petite ville de Dickens, à 50 km de l'endroit où deux policiers avaient été touchés, un jeune fermier remarqua des traces de pneus qui menaient à un garage. D'ordinaire, la voiture de ses parents y était garée, mais pas cette fois-ci. Un pick-up marron avait pris la place de leur véhicule. Le fermier, qui avait reconnu la camionnette du suspect pour l'avoir vue aux nouvelles, appela la police. La patrouille du Nebraska confirma qu'il s'agissait bien de la camionnette de Charles Moses que les policiers avaient criblée de balles en ripostant au coup de feu du suspect.
Le numéro de plaque était toujours sur le pick-up qui était enregistré au nom de Moses. On pouvait toujours y voir les trous des projectiles. C'était la preuve qu'on avait bien touché le véhicule. Les trous de ces projectiles étaient principalement à l'arrière de la cabine. De plus, la vitre arrière avait été fracassée. Certains projectiles s'étaient logés dans le tableau de bord et d'autres étaient sortis en transperçant le pare-brise.
Les enquêteurs trouvèrent également des indices qui démontraient que le suspect était blessé. Il avait été touché par au moins un des projectiles.
On a trouvé du sang humain dans la cabine du pick-up. Cela nous a amené à croire que le policier de Lincoln County, qui avait fait feu au début de la fusillade, avait vraisemblablement touché Moses.
Mais si Moses était blessé, il avait avec lui la drogue parfaite pour rester sur le qui-vive, insensible à la douleur, agressif, pour toujours aller de l'avant, même sans dormir.
La camionnette était remplie de matériel pour chauffer et fabriquer les méthamphétamines. Il y avait pratiquement un labo à l'arrière de ce pick-up.
Les enquêteurs y trouvèrent également tout l'équipement nécessaire pour survivre, des radios policières et des armes. Il n'y avait toutefois aucune trace de la puissante arme d'assaut dont Moses s'était servi pour tirer sur les deux policiers. Une heure après qu'on eut trouvé le pick-up, à 100 km de là, à Ogallala, la patrouille du Nebraska répondit à l'appel d'un homme qui disait connaître Charles Moses. Il déclara qu'il l'avait vu 15 minutes plus tôt. Moses lui avait parlé à un relais routier. Il était à bord d'une voiture dont la description correspondait à celle qu'on avait volée à la ferme. Au cours de leur conversation, Moses avait entendu un bulletin de nouvelles à la radio qui donnait le signalement du véhicule qu'il conduisait. Visiblement nerveux, il était parti à toute vitesse. L'homme ajouta qu'il avait attendu une quinzaine de minutes avant d'appeler la police. Il avait peur du fugitif parce que celui-ci savait où vivait sa famille. Les enquêteurs craignaient que Moses ne change à nouveau de voiture pour semer la police à ses trousses. Deux heures plus tard, à 30 km plus au sud, un fermier remarqua des traces de pneus récentes devant une maison située sur la ferme de sa famille. Cette maison avait été fermée car plus personne n'y vivait. Il appela les membres de sa famille pour leur demander s'ils y étaient venus. Ceux-ci lui répondirent que non, mais ils lui parlèrent ensuite des mises en garde de la police à propos d'un dangereux fugitif qui rôdait dans le secteur. Ils lui conseillèrent de quitter les lieux sur le champ. Le parent du fermier qui était au téléphone l'entendit alors s'adresser à quelqu'un d'autre. La police apprendrait très vite que Charles Moses venait de faire sa première victime d'homicide. Le fugitif était toujours en cavale et plus que jamais prêt à tout. Le 14 février 2000, 36 heures après que le fugitif Charles Moses eut gravement blessé deux policiers du Nebraska, une enquête pour homicide fut ouverte à Paxton. La victime, un fermier, avait été tuée alors qu'elle parlait à un membre de sa famille sur son téléphone portable. L'équipe d'enquête devait reconstituer le meurtre à partir des indices présents sur la scène du crime. Pour le sergent de la police d'État, Lynn Williams, les circonstances entourant le décès portaient la signature de Moses.
On avait appris que la victime s'était rendue jusqu'à cette maison abandonnée pour vérifier des traces de pneus récentes qu'il avait remarquées. On croyait que le fermier avait surpris Moses et que ce dernier avait réagi en l'abattant. Ensuite, il avait sorti le corps de l'homme de son pick-up et l'avait laissé par terre, et il était parti avec son véhicule.
Des patrouilleurs trouvèrent des traces de pneus identiques à celles du véhicule du fermier, de même que des éclats de verre qui provenaient de la vitre du côté du conducteur. Cela indiquait que cette fenêtre avait volé en éclats. Pour l'agent spécial du FBI, Ron Rawalt, ces éclats de verre constituaient un indice important.
Je me disais que lorsqu'on aurait capturé Moses, celui-ci nous dirait qu'il avait agi en légitime défense en ripostant au coup de feu du fermier. Je savais qu'on pourrait déterminer combien de coups de feu il y avait eu et d'où ils étaient partis. Quand un projectile traverse du verre à haute vitesse et que ce verre éclate, il y laisse des traces caractéristiques qui répondent aux questions que se pose un enquêteur. C'est ainsi qu'on sait qui a tiré le premier et dans quelle direction est parti le projectile.
Le verre serait examiné plus tard au labo. Derrière une grange, sur la même propriété, les enquêteurs trouvèrent la voiture volée qu'on avait vue conduite par Moses. Elle semblait avoir été abandonnée à la hâte. Sur le siège arrière, les policiers trouvèrent des produits chimiques, des couteaux, de même que plusieurs armes à feu. Moses avait sans doute décidé de changer de voiture après en avoir entendu la description au bulletin de nouvelles à la radio.
Il était évident que Moses avait tenté de dissimuler cette voiture. Elle était recouverte d'une bâche. De plus, il avait commencé à la recouvrir de branches d'arbres et de broussailles.
Les enquêteurs trouvèrent les cartes d'identité de la victime, mais pas le téléphone portable utilisé au moment du meurtre. On pouvait en présumer que Moses avait emporté le téléphone du fermier à bord de son pick-up bleu. On transmit un bulletin d'alerte et l'on contacta les sociétés téléphoniques pour leur demander de trouver le signal du portable. Dès qu'ils sont allumés, les téléphones portables sont constamment à la recherche de la tour de retransmission la plus proche. À l'aide du numéro de téléphone de l'appareil, la police peut découvrir quelle tour le dessert. 2 heures après le meurtre du fermier, on découvrit qu'une tour à Oshkosh avait enregistré le signal du téléphone disparu. Mais avant que la police n'ait eu le temps de se rendre sur place, le signal s'interrompit. Les experts du FBI analysèrent les fragments de verre trouvés sur la ferme.
J'ai pu déterminer qu'un seul projectile avait été tiré, qu'il provenait de l'extérieur de la camionnette et l'avait traversé. Mon examen m'a permis d'affirmer qu'il n'y avait pas eu d'autres coups de feu. Ce n'était donc pas de la légitime défense, mais bien un homicide.
Suite au meurtre du fermier et au vol de son pick-up, le FBI fit émettre un autre mandat d'arrêt contre Charles Moses.
Les faits s'étaient considérablement modifiés. Ainsi, j'ai pu inclure sur le mandat d'arrêt une accusation contre Moses de vol de voiture et un homicide.
Charles Moses se promenait d'un bout à l'autre de l'État, armé et dangereux. Le gouverneur du Nebraska, Mike Johans, tint une conférence de presse pour mettre le public en garde. À l'évidence, le fugitif n'hésiterait pas à tuer quiconque pour obtenir ce qu'il voulait. Plus tard, à 130 km de là, près de la limite du Wyoming, une femme âgée passait tranquillement la soirée. Elle entendit alors quelqu'un défoncer sa porte. Elle entendit ensuite les pas d'un intrus dans la maison qui s'approchait de sa chambre. Comme il était trop tard pour s'échapper, elle se cacha du mieux qu'elle put. Au dernier bulletin de nouvelles, on avait dit que Moses avait tué le propriétaire qui l'avait surpris. Il sembla chercher quelque chose, puis il quitta la maison. La femme s'en tira saine et sauve et appela la police de la maison d'un voisin. Elle déclara qu'elle n'avait pas vu le visage de l'intrus. Toutefois, les policiers du bureau du shérif de Scotts Bluff trouvèrent des traces de pneus identiques à celles du pick-up volé. On trouva également des éclats de verre provenant de glace d'auto près d'une de ces traces. L'endroit où ils se trouvaient laissait croire qu'ils provenaient de la fenêtre du côté du conducteur. C'était par cette fenêtre que Moses avait vraisemblablement abattu le fermier. Les policiers contactèrent le FBI pour leur signaler ces nouvelles découvertes.
À partir de ce qu'ils avaient trouvé et de la sorte de verre sur la scène du crime, il était devenu évident que Moses avait commis ce vol et qu'il se dirigeait vers l'ouest.
Comme Charles Moses se trouvait près de la limite du Wyoming, le FBI appela les services de police de cet État pour les aviser qu'un meurtrier se dirigeait vraisemblablement chez eux. La petite ville de Lusk, au Wyoming, est située à 30 km de la limite du Nebraska. Au poste de police de Lusk, le chef Gary Gill reçut le bulletin d'alerte du FBI.
Ce matin-là, notre répartiteur nous a parlé de Charles Moses. On savait qu'il venait du Nebraska à bord d'un pick-up bleu et qu'il pouvait arriver de n'importe quelle direction.
Les médias alertèrent la population à propos du fugitif. Vers 13 heures, les mises en garde des médias portèrent fruit.
Un camionneur a appelé notre service pour signaler qu'un pick-up semblable à celui que conduisait Charles Moses se trouvait dans la partie sud d'un stationnement dans un relais routier de Lusk.
Le chef adjoint Dusty Chrisman répondit à l'appel, accompagné de Gary Gill. Plusieurs véhicules dans le stationnement correspondaient à la description. Mais les policiers savaient qu'à bord de l'un d'eux pouvait se trouver un meurtrier qui avait tenté de tuer deux policiers.
On examinait les plaques d'immatriculation quand on avait un pick-up bleu qui correspondait à la description.
Les plaques correspondaient. C'était bien le pick-up.
On a décidé de tenter de lui barrer la route.
Les policiers arrivèrent de deux directions opposées. Quelqu'un se trouvait bel et bien à bord, mais il était impossible de savoir s'il s'agissait de Moses. Il ne semblait pas y avoir de vitre dans la fenêtre du côté du conducteur. Si c'était Moses, celui-ci était peut-être finalement revenu de sa consommation effrénée de méthamphétamine. Le chef Gill demanda des renforts et attendit l'arrivée des voitures de patrouille. C'est alors que le conducteur sortit de sa torpeur. Le chef adjoint Chrisman ne pouvait risquer de faire feu de là où il se trouvait. Il n'était pas encore tout à fait sûr qu'il s'agissait bien de Moses. Cela signifiait qu'on se lancerait dans une autre poursuite.
Notre plus grande crainte au cours de cette poursuite a été quand Moses a emprunté Main Street direction nord. On savait qu'il traverserait ainsi le secteur des affaires, et cela sans doute à haute vitesse. On avait également peur de le perdre quand il atteindrait les limites de la ville et qu'il emprunterait l'autoroute 85 vers le nord.
Quelques semaines après le début des poursuites pour capturer Charles Moses, les policiers le tenaient presque à nouveau. Après avoir échappé aux autorités du Nebraska et au FBI, le présumé meurtrier Charles Moses était maintenant à Lusk, au Wyoming. Les policiers de cette petite localité étaient à sa poursuite. Mais Moses avait une longueur d'avance sur eux et il semblait savoir où il allait.
Moses nous a finalement semés en sortant de l'autoroute 85. Il a emprunté une route rurale en mauvais état. Nos voitures n'avaient que deux roues motrices et n'étaient donc pas équipées pour le suivre. Il s'est rendu dans un ranch, a traversé un vieux barrage, et il est enfin arrivé dans des pâturages après avoir défoncé quelques clôtures. On ne pouvait pas le suivre.
Les autorités venaient de perdre le suspect de nouveau. la police de Lusk joignit alors ses efforts à ceux du bureau du shérif de Newborough County. Le shérif Samuel Reed aida à planifier la mise sur pied d'une zone protégée de 15 km d'où Moses ne devait pouvoir s'échapper.
Le secteur délimité était très vaste. Mais on a tout de même eu de la chance, car c'était situé au milieu de trois autoroutes importantes. De plus, il y avait une route du comté qui passait en plein centre.
Mais on ne devait rien précipiter.
On ignorait ce qu'il ferait. Alors, on est resté un peu en retrait, sachant qu'il était armé d'une carabine très puissante.
Tous les agents du secteur, y inclus les gardes forestiers, se rendirent au barrage routier pour participer aux recherches et pour alerter les automobilistes de se tenir à l'écart s'ils apercevaient le suspect. Ils rencontrèrent également les résidents qui vivaient à l'intérieur du périmètre de 15 km. Ils leur demandèrent d'être vigilants et d'appeler la police au moindre signe suspect.
J'étais préoccupé par le fait que si on ne parvenait pas à arrêter Moses avant la nuit, on aurait beaucoup de mal à le trouver. Je connaissais les propriétaires des ranchs du coin et j'étais extrêmement inquiet à l'idée que le suspect entre chez eux à la pointe de son arme, qu'il prenne des otages, qu'il les tue et qu'ensuite il quitte le secteur à bord de leur voiture.
L'agent spécial Ron Rayrault aida les autorités du Wyoming en leur fournissant les ressources du FBI.
Le bureau du FBI du Wyoming a fourni deux avions afin qu'on puisse patrouiller du haut désert les autoroutes de l'État et les routes rurales et repérer le véhicule que conduisait Moses.
En survolant le secteur méthodiquement, un des pilotes remarqua alors le pick-up dans lequel on avait vu Moses pour la dernière fois. Il semblait être coincé dans un ravin. Une unité SWAT de la patrouille d'État du Nebraska fut transportée par voie des airs dans le secteur. Les membres de l'équipe se positionnèrent sur un terrain surplombant le pick-up. Mais Moses n'était pas dans leur champ de vision. Celui-ci les surveillait peut-être, n'attendant que le meilleur moment de passer à l'action. Ils commencèrent leur recherche à partir du véhicule. Pour assourdir quiconque se trouverait dans les parages, ils tirèrent une grenade neutralisante. Le suspect n'était pas là. On trouva toutefois des traces de pas dans la boue près de la camionnette. Les membres de l'équipe les suivirent. Mais sous le couvert des arbres, les traces cessaient abruptement.
Il avait échappé aux patrouilles locales. Et il avait échappé à l'unité SWAT qu'on avait fait venir du Nebraska.
Ce soir-là, Moses refit surface à nouveau. À 20h30, le propriétaire de ranch, Jim Creamers, et son fils Justin entendirent leur chien japper derrière la maison. Comme ils avaient entendu parler de Moses, Justin sortit avec une arme. Quelqu'un était là. Un bref coup d'œil les persuada qu'il s'agissait bien de Moses. Le tireur devait absolument être arrêté. Justin Kremers se déplaça pour braquer son arme sur Moses par l'arrière. Son père mettait sa vie en jeu pour mettre un terme à la cavale du fugitif et à ses actes de violence.
Je n'avais aucune arme sur moi. Moses, lui, avait une carabine et un pistolet de gros calibre dans les mains.
Jim Kremers espérait que son fils lui viendrait en aide si son plan échouait. Il fit une proposition à Moses. Il savait que le fugitif avait été exposé à une pluie glaciale toute la journée. Si Moses déposait ses armes et acceptait d'entrer dans la maison, le rancher lui donnerait un repas chaud et il ferait sécher ses vêtements trempés.
C'était le plan que j'avais en tête. Je me disais que si je parvenais à le faire entrer dans la maison, je n'aurais rien à craindre, puisqu'il ne serait plus armé. Il faisait froid. Il ne pourrait donc pas s'échapper sans ses vêtements. J'invite rarement les gens chez moi sans leur offrir à manger. Je savais qu'il avait faim et je lui ai dit, « Allez, entrons et allons manger quelque chose. »
Si le rancher parvenait à faire entrer le fugitif, son fils appellerait la police à l'insu de Moses. Justin Kramer surveillait le suspect. Celui-ci semblait vouloir mordre à l'hameçon. Mais soudainement, il se ravisa. Jim Kramer espérait que Moses n'entraînerait pas son fils dans ses actes violents.
Tout au long de cette triste histoire, je craignais que mon fils ne soit obligé de tuer quelqu'un. Peu m'importait que le fugitif mérite ou non de mourir. Je ne voulais simplement pas que mon fils ait cela sur la conscience toute sa vie.
Si la situation s'envenimait, Justin n'aurait pas le choix.
J'avais peur de le manquer si je tirais. Je n'avais qu'une seule chance, alors que lui, il en avait jusqu'à six avec son pistolet. Moi, je n'avais que mon fusil à un coup.
Après des semaines d'errance, soutenues par des méthamphétamines, Charles Moses ralentit enfin sa cadence. Il laissa ses armes à l'extérieur.
Je n'ai jamais laissé tomber mon arme. Je l'ai baissée un peu, mais à tout moment, je pouvais la remettre en joue rapidement, si c'était nécessaire.
À l'intérieur de la maison, et sans ses vêtements mouillés, Moses ne pensa plus qu'au repas chaud devant lui, le premier qu'il prendrait depuis plusieurs jours.
Je suis sorti par la porte d'entrée principale et me suis absenté pendant 5 minutes pour appeler le shérif de chez mon frère. Ensuite, je suis rentré par la même porte et il ne s'est jamais rendu compte de quoi que ce soit.
Un agent de LUSC et un garde forestier du Wyoming furent sur place en quelques minutes. Grâce au plan des Kramers, le dangereux fugitif était sans défense. Après une poursuite effrénée s'échelonnant sur plusieurs centaines de kilomètres et ponctuée d'entrées par effraction, de vols de voitures, de fusillades ainsi que d'un homicide, Charles Moses Jr. était enfin entre les mains de la police. Comme on l'avait supposé, Moses avait en effet été blessé par les tirs des agents du Nebraska. À l'hôpital de Cheyenne, au Wyoming, on l'avait soigné pour une blessure de projectile à l'épaule, pour déshydratation et pour épuisement. La drogue qu'il avait consommée et la police qui était constamment restée à ses trousses l'avaient drainé de ses forces. L'agent spécial Ron Rowalt fit ramener Moses au Nebraska.
Le matin suivant l'arrestation, en route pour Cheyenne, je suis allé chercher un lieutenant de la patrouille du Nebraska, de même que le policier Casey Nelms, l'homme qui avait tenté d'arrêter Moses, le premier. J'ai amené ces deux personnes avec moi car je voulais, en arrivant au Nebraska, qu'elles puissent exécuter le mandat qu'elles avaient contre Moses. Le lieutenant de la patrouille a arrêté Moses pour avoir fait feu sur un patrouilleur de l'État et Casey Nelms a arrêté Moses pour avoir abattu le fermier, de même que pour s'être attaqué à deux policiers de Lincoln County.
Au début, Moses a voulu se défendre des accusations portées contre lui, mais au vu des preuves obtenues à partir des indices balistiques et judiciaires, il a accepté de conclure un marché pour s'éviter la peine de mort. Charles Moses a finalement plaidé coupable à un meurtre au second degré et à 2 chefs d'accusation d'assaut à main armée contre des policiers. Il a été condamné à 190 ans de prison. Actuellement, les drogues qui causent le plus de problèmes dans le Midwest américain sont les méthamphétamines. Mais les autorités policières sont résolues à combattre ce fléau, peu importe le prix.